Le thème de l'exposé de ce soir est intégrer les émotions difficiles dans notre pratique. Un sujet pas franchement facile à traiter, encore moins à vivre et à ressentir. Et je crois que c'est important d'avoir une attitude qui permet d'intégrer cet aspect de toute évidence douloureux. Donc lorsqu'on parle d'émotions difficiles, il s'agit bien d'états mentaux dans la psychologie bouddhique, facteurs mentaux, états mentaux, qui font partie du troisième fondement de l'attention. Comme récapitulatif, peut-être qu'il est important de dire que donc le premier fondement est les sensations physiques, tout ce qui appartient au domaine physique. Deuxième, c'est le ressenti, l'aspect agréable, désagréable ou neutre, que l'on nomme Vedana, premier Rupa. Et puis le troisième, donc tout ce qui est des Chetasika dans le sens de émotions, états mentaux. Il y a également les pensées, les images mentales. Quatrième fondement de l'attention, tout ce qui est de l'ordre des phénomènes, quels qu'ils soient. On a donc là toutes les expériences que l'on peut éprouver. Et dans cette catégorie, on trouve également tout ce que le Bouddha a inclus dans son enseignement, les qualités que l'on nomme facteurs d'éveil, les agrégats, les cinq facultés spirituelles, les quatre nobles vérités. Donc il y a tout un registre, il adore catégoriser les choses. Et donc on peut vraiment avoir une structure. Si nous sommes une personne structurée, il n'y a aucun doute qu'on a beaucoup de joie à pouvoir avoir tous ces petits tiroirs qui s'inscrivent et qui ont tous un certain contexte. Donc les émotions difficiles sont naturellement nombreuses. Je vais surtout en parler de certaines plus particulièrement, celles qui me paraissent importantes. On comprend que dans les enseignements du Bouddha, il y a un seul intérêt, l'intérêt de pouvoir faire l'expérience des phénomènes, et l'intérêt c'est de se libérer de la souffrance conditionnée. Donc son tout premier serment, et je crois que Charles a parler de la vérité de la souffrance et surtout de la deuxième noble vérité. Mais on comprend vraiment que tout le cœur de l'enseignement du Bouddha est situé au niveau de... Il y a de la souffrance dans l'être humain, et pas seulement dans l'être humain, mais dans l'être, tout être qui est sensible. Et il y a la possibilité de pouvoir, pour l'être humain, de se libérer de cette souffrance dite conditionnée. Et donc, si vous voulez, le processus de la méditation est un chemin qui mène à cette liberté. Donc, la quatrième vérité dit qu'il y a un chemin, une pratique, il s'agit de s'y engager. Et il n'y a aucun doute que l'on fait ceci de manière extrêmement intensive dans une méditation comme une retraite comme celle-ci. Et pour cause, c'est pour ne pas rester superficiel, mais pouvoir approfondir et toucher, éprouver la nature même, les caractéristiques comme elles se présentent. Donc il y a une immense valeur en approfondissant le processus. Cette pratique, avec un peu plus de temps, nous donne l'opportunité de dévoiler les parties de nous-mêmes que nous avons beaucoup tendance, soit à cacher, soit à ignorer, soit reniées, souvent parce qu'on les trouve extrêmement menaçantes. Et pourtant, même lorsque nous sommes dans un registre d'évitement, de stratégie, de s'y opposer, eh bien, consciemment ou inconsciemment, on peut se rendre compte qu'elles opèrent en nous. Donc, il n'y a aucun doute que le chemin, si vous voulez, qui est proposé ici par rapport à trouver une certaine liberté, eh bien, demande une rencontre. Une rencontre tout à fait particulière, inhabituelle, au niveau du vécu, de l'expérience. Donc il ne s'agit pas là de nourrir des concepts ou des belles idées par rapport aux émotions, mais vraiment de pouvoir faire l'expérience, goûter à ce type d'expérience comme tout autre type d'expérience, car elles font partie de notre être. Et lorsqu'on commence à pouvoir être en leur présence, on perçoit que c'est extrêmement riche comme domaine. Il n'y a aucun doute qu'il y a une richesse immense et qu'à ce moment-là, il y a un intérêt, une curiosité, et que ce ne sont plus des expériences à rejeter ou à éviter. Ceci, naturellement, demande du doigté, beaucoup d'habileté, et c'est ce dont je vais parler ce soir, c'est comment s'y prendre, quel est le chemin, le processus, puisqu'on est ici vraiment du matin au soir à découvrir ce qui est là. Les Tibétains ont une image extrêmement parlante par rapport à tous les phénomènes d'ailleurs. Et lorsqu'on a cette image à l'esprit, ils disent que tout type de phénomène est comme un nuage dans le ciel. Les nuages, ils apparaissent, ils disparaissent et ils n'altèrent pas la nature du ciel elle-même. Il n'y a pas d'adhérence, si vous voulez. Et on peut très bien voir ceci. Souvent, moi, je regarde le ciel et il y a une telle clarté dans cette vision-là que ces nuages ne laissent pas de traces. Comme un arc-en-ciel, d'ailleurs, qui ne laisse pas de traces. Les émotions, elles ont cette même capacité d'émerger en nous. Et puis, elles ont également cet aspect vide, quelque part, en essence. Elles disparaissent dans l'espace de la conscience. Donc elles émergent et disparaissent sans l'altérer. Sans altérer, si vous voulez, ou entacher la nature de la conscience elle-même. Et ça, c'est un point extrêmement important. Donc, comment s'y prendre? Eh bien, tout d'abord, il s'agit de reconnaître l'émotion qui est présente. Et ceci n'est pas toujours évident. Quel type d'émotion m'habite en ce moment? Donc, plutôt que d'essayer de trouver, de mettre le mot exact sur le nom par rapport à la sensation éprouvée, on essaye de demeurer présent, ouvert, disponible pour être relié au niveau du senti. Ce qui veut dire qu'on passe quelque part du niveau conceptuel au niveau vécu, expérimental. Vous savez bien, j'imagine que cette sagesse est intuitive. Et donc, plutôt que d'essayer de nommer l'expérience, ce qu'on fait la plupart du temps, eh bien, nous allons nous intéresser au rapport à l'expérience. Et ceci est tout à fait nouveau dans notre manière de nous positionner. Donc, qu'est-ce qui se situe dans le rapport à l'émotion présente? Ce qu'on a nommé, je peux imaginer ce que Charles a nommé l'attitude, le type de rapport à l'expérience. Donc, nous allons être plus au clair, vraiment pouvoir reconnaître ce qu'elle est en tant qu'expérience, si notre attitude est à la fois réceptive et respectueuse. On peut commencer à comprendre à ce moment-là quelque chose de la nature de cette émotion. Et la nature de cette émotion est une manifestation qui fait partie de la vie dans sa globalité, comme tout autre type d'expérience. Souvent, on ne va pas jusque-là. Donc, ce qui se passe, c'est que généralement, on les considère comme étant trop douloureuse à vivre, donc on veut s'en séparer. Et voilà généralement notre attitude. La colère ou le désir attachement, on les considère comme mauvais et on peut avoir vraiment une mauvaise interprétation par rapport à celle-ci. On considère la peur comme invalidante. Et bien sûr, ceci se situe dans un contexte tout à fait social et culturel. On peut vraiment comprendre que celle-ci étant inconfortable et la peur étant assez effrayante, je dois dire, le rapport à l'expérience qui va se révéler est une réaction compulsive, plutôt qu'une attitude respectueuse et réceptive. Donc, il n'y a aucun doute que la méditation va également nous demander d'intégrer les réactions compulsives, de les reconnaître, les rencontrer. Un type de réaction compulsive est la répression ou le rejet d'un côté. Et l'autre type de réaction est l'expression de cette émotion. C'est-à-dire qu'on se lance dans l'action pour s'en séparer. Donc ces deux types tout à fait clairs qui généralement peuvent se reconnaître, soit on agit sur, soit on réprime. Au moment même où ces émotions désagréables arrivent, il y a un besoin urgent, d'une manière ou d'une autre, de faire quelque chose à leur sujet. Non pas pour les connaître à ce moment-là, mais pour s'en débarrasser. Et ça, c'est une attitude qui est certes commune à nous tous. Je crois que c'est vraiment très clair. Elle crée de la frustration, elle crée une certaine irritation. Comme je l'ai dit, il peut y avoir la peur de la peur, il peut y avoir la peur de la colère, il peut y avoir une foule d'expressions et de compositions d'émotions également, des constellations, si vous voulez, d'émotions. Donc elles ne sont pas isolées. Souvent, une va laisser émerger une autre. Ce qui veut dire que on va tenter consciemment et inconsciemment soit de vouloir les faire partir en les refoulant dans l'inconscient ou en les poussant dehors par l'action. Et ce sont vraiment les deux manières compulsives qu'on va pouvoir intégrer. Et je crois que c'est très important de commencer à voir que le cheminement, si vous voulez, d'un processus est de se rendre compte que ces deux types de réactions sont synonymes de souffrance. Il n'y a aucun doute que lorsqu'on commence à avoir une conscience éclairée, une présence qui perçoit la souffrance qui se situe dessous, eh bien, on commence à se rendre compte que ce sont des modes d'évitement. Et qu'il n'y a pas vraiment de résolution, qu'il n'y a pas vraiment de capacité de pouvoir être en réceptivité. Et de ce fait, c'est déjà un immense pas lorsque ceci est remarqué, le type de réaction que nous mettons en place. Donc ça fait partie du processus. Il n'y a pas à se débarrasser de la réaction, au contraire, de pouvoir vraiment laisser émerger le mode de résistance. Et ceci revient à explorer le rapport à l'expérience, le rapport à l'émotion. Donc en explorant le processus un peu plus profondément, nous pouvons remarquer comment elles vont émerger et comment elles nous perturbent également. Parce que lorsqu'on est dans un registre de pouvoir nous ouvrir, être intéressé à découvrir la réaction, il n'y a aucun doute que ça va nous ouvrir également le champ de l'expérience présente au trouble et à la perturbation et naturellement laisser émerger un tout petit peu plus l'émotion qui est en jeu. Donc, un des bienfaits de la méditation, et vraiment, c'est, en tout cas pour ma part, c'est extrêmement précieux et une immense valeur, c'est qu'on peut apprendre à travailler avec ces états mentaux douloureux plutôt que de voir les rejeter ou agir, les laisser agir. Souvent, on a une vue, en tout cas pour ma part, j'avais vraiment à mille lieues de me dire que j'allais rencontrer les émotions douloureuses. On a une vue un peu idéalisée de la méditation. Il n'y a aucun doute que toutes les images qu'on peut percevoir de Bouddha, de statues, d'images, quelles qu'elles soient, il y a vraiment une telle sérénité qui se manifeste de paix intérieure que c'est ça qu'on a envie de découvrir. Calme, paix, il n'y a aucun doute que la motivation, elle va dans ce sens-là et non pas commencer à rencontrer les choses les plus douloureuses qui puissent être en présence. Mais une fois qu'on on est un tout petit peu plus au clair par rapport à ce qui se situe, on se rend bien compte que l'enjeu est de pouvoir intégrer la globalité de notre être. Et que si nous essayons de laisser de côté les aspects les plus difficiles, les laisser dans l'ombre, eh bien il y a la lumière que sur une partie de nous-mêmes. Et donc la fragmentation est la conséquence. Donc ce qui me paraît plus réaliste et avec le temps en pratique, c'est de pouvoir aussi avoir à cœur de comprendre qu'il s'agit d'intégrer les aspects les plus douloureux. Et ce qui m'a paru plus réaliste, et au moment où j'ai pu vraiment me rendre compte que le chemin, c'est d'être en présence de ces émotions et de ne pas être aussi troublé ou submergé par elles, plutôt que de ne plus en avoir. Et ça, c'est beaucoup plus réaliste et naturellement beaucoup plus accessible. D'être en présence d'une émotion quelle qu'elle soit et ne pas être complètement perdu, submergé, troublé par celle-ci. Avec l'approfondissement de la pratique, c'est exactement ce qui se passe. Une certaine confiance que c'est possible d'être en présence et pas être aussi noyé, perdu, submergé. Et c'est la pratique qui va naturellement nous permettre de découvrir autre chose. Non pas l'idée, à nouveau, mais la sérénité ou l'équanimité qui peut émerger en présence des états difficiles, quels qu'ils soient. Il en est de même pour les sensations physiques douloureuses ou si on est vraiment très agité par les pensées. Le cheminement est le même. Donc, pour ma part, en tout cas, je suis emplie de gratitude envers le Dharma. C'est un chemin qui a été tellement précieux et qui l'est encore. Et aussi, toutes les ressources. Et je crois que c'est important par moments, surtout lorsqu'il y a des moments où, justement, on perd pied, où il y a vraiment tellement de difficultés qu'on se dit « Mais en quoi est-ce que je peux avoir confiance ?» Quel est l'abri, quel est le refuge quelque part? Et naturellement, de pouvoir se rendre compte qu'il y a des ressources intérieures et qu'il y a également un chemin qui est très clairement défini. Et que lorsque on le met en pratique, il y a une mise en pratique, et une bonne volonté, non pas la volonté du vouloir, mais la bonne volonté de se mettre en jeu bien à ce moment-là. Ces ressources peuvent apparaître. Et quelles sont ces ressources? Eh bien, ce sont les qualités, les facteurs mentaux positifs, les qualités de l'esprit qui sont positives et qui sont également présentes. La présence, la tranquillité, la patience, la persévérance, la bienveillance, la compassion, l'équanimité, la sagesse, toutes ces qualités qui font partie soit des facultés spirituelles ou des facteurs d'éveil qui naturellement sont là également et qui nous permettent d'être accompagnés. Elle nous aide à comprendre les différents types d'émotions difficiles et de les amener à une place, quelque part où elles deviennent accessibles. Donc, à un moment donné, on se dit, mais, ah, tiens, c'est possible. C'est possible d'être avec cette émotion, alors que peut-être, il y a quelques temps, ça ne l'était pas. Et ça, c'est un processus, un chemin qu'on découvre en retraite méditative intensive comme celle-ci. Pema Chodron a une manière de dire qui est assez... qui va très bien avec ce qui vient d'être évoqué. Elle dit des sentiments comme la déception, l'embarras, l'irritation, le ressentiment, la colère, la peur, au lieu d'être des mauvaises nouvelles, sont en réalité des moments de clarté qui nous enseignent ce que nous refoulons. Donc ce ne sont pas des mauvaises nouvelles, mais au contraire des joyaux. Donc pour pouvoir apprendre d'elle et savoir ce qu'elle nous enseigne, eh bien, il s'agit naturellement d'avoir une certaine qualité de présence. Et c'est ce qu'on développe ici. Travailler avec une émotion, il faut déjà la situer, la rencontrer. Et pour beaucoup d'entre nous, eh bien, ceci est un chemin déjà de pouvoir intégrer les émotions difficiles. Mais à un moment donné, il n'y a aucun doute qu'elles peuvent apparaître et qu'elles surgissent dans le registre de la méditation. Maintenant, c'est très important pour vous d'entendre que si vous n'avez pas d'émotions qui vous troublent ces jours-ci, eh bien, n'allez pas creuser. Si vous êtes vraiment quelqu'un qui est présent au calme, tranquillité, tout va bien, eh bien, profitez, nourrissez ces qualités. Donc, on comprend qu'en méditation, on ne va pas aller creuser, chercher. Donc, un sujet comme celui-ci, il peut vous parler aujourd'hui, ou il peut vous parler demain, ou dans une semaine. Donc, je crois que c'est très important de savoir qu'on intègre un thème ou un sujet à un moment donné, surtout un sujet comme celui-ci. Donc, le processus est riche, gratifiant, et on dévoile, on révèle ce qui se présente à nous. Nous n'allons pas commencer à chercher, gratter, pour ressentir quelque chose qui ne serait pas là. Nous sommes présents à ce qui est là, sans évitement, dans la mesure du possible. Donc, ceci va naturellement élargir notre capacité d'accueil et de réceptivité. Donc, je vais ce soir parler de 5 types d'émotions qui, à mon avis, sont, en tout cas dans mon registre, plus ou moins les principales. C'est évident qu'il y en a bien d'autres. Mais la manière de se positionner, si vous voulez, est toujours la même. Donc, les 5 dont je vais parler ce soir est le désir attachement, première, l'aversion, qui souvent se situe soit sous forme de... d'aversion dans le sens de manifestation assez clairement brûlante, comme la colère, irritation, frustration. Il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de grades, beaucoup de différents types de niveaux. Et puis la forme d'aversion qui est beaucoup plus rentrée, et la tristesse et la peur font partie de ces types d'aversion. Également l'autocritique. Donc la première et la plus plaisante, je vais commencer là. Le désir attachement est sans doute aussi, il n'y a aucun doute, une source de souffrance, mais elle est beaucoup moins douloureuse que la colère, par exemple. Ce désir attachement qui nous fait miroiter des choses qu'on a envie d'avoir. En retraite, se situe vraiment d'une manière assez simple. Je veux dire, on réduit notre champ de possibilités au niveau des désirs attachements. Surtout avec raison, après 8-9 jours de méditation, on intègre un petit peu le cadre dans lequel nous sommes. Donc, il n'y a aucun doute qu'on on devient également raisonnable, si on veut, par rapport à nos envies. Et souvent, ça se situe, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, dans une retraite intensive comme celle-ci, ça se situe au niveau des repas. Oh, combien on passe de temps à laisser l'esprit gamberger et combien c'est clair que les repas sont de toute évidence quelque chose qui vont nourrir ce désattachement. Les fantaisies de l'esprit, toutes les histoires qu'on se raconte, les distractions. Et bien entendu, j'imagine que le fait du moment où on retrouve son lit le soir peut être également un des moments où il y a dans notre journée un certain désir, attachement à pouvoir trouver un certain confort, si vous voulez. Et entre deux, le corps fait un peu mal, ou même très mal. La respiration ou le point d'ancrage est ennuyeux. Et puis, ceci fait qu'au niveau du désir, attachement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on essaye de se distraire. L'esprit s'évade en essayant de se distraire. Donc, le désir va procurer du divertissement. Et on peut explorer ce terrain, qui, je suis sûre, est familier à tous. Maintenant, ce qui se passe, c'est que il y a un peu d'aigre doux dans ce registre-là. Parce qu'il n'y a aucun doute qu'au niveau du ressenti, on peut retrouver ici, resituer le deuxième fondement de l'attention. Le ressenti peut être agréable, plaisant, si on se laisse à penser à des rêveries ou à un lieu ou une nourriture préférée. Mais donc cela apporte un confort momentané dans notre esprit. Et pourtant, sous-jacent, si vraiment il y a une qualité de présence assez continue et stable, si on veut, on sait que ce n'est pas là, au moment où ça se passe. Il y a donc une insatisfaction au niveau de notre vécu. C'est finalement assez frustrant d'avoir tous ces désirs attachements. Il n'y a aucun doute qu'à ce moment-là, on peut percevoir et ressentir que ça peut laisser émerger une émotion douloureuse sous-jacente. Je vais raconter l'histoire d'un méditant qui a participé à la retraite de 15 jours à Pian dei Silegi, un lieu où on enseigne l'été en Italie. Et on y était l'été dernier. Et ce méditant s'est inscrit à la dernière minute. M'a dit la personne qui s'occupait de la retraite, elle me dit, il s'est inscrit hier. Puis naturellement, la première fois que je l'ai vu en entretien, il avait tout sauf envie d'être là. Les amis étaient partis aux Caraïbes. Il n'y avait plus de place dans l'avion pour lui. Donc voilà qu'il atterrit dans une retraite de méditation de 15 jours. Je lui ai dit, mais c'est naturel que vous n'ayez pas envie d'être là. Je lui ai dit, mais puisque vous êtes là, est-ce que c'est peut-être possible d'explorer cela? Et alors, il a vraiment eu beaucoup de courage parce qu'il a ouvert son esprit et puis il a commencé à travailler avec son désir-attachement. Désir-attachement d'être aux Caraïbes et aucun doute d'être en vacances. Et puis, sous-jacent était vraiment l'aspect frustrant et même irritable, l'aversion au niveau de ce qui se passait pour lui dans le présent. Donc, il n'y a aucun doute que les deux vont de pair. Tout à fait naturel. Mais le scénario de l'esprit par rapport au désir attachement, c'est pour lui en tout cas, et c'est ce qui se passe, c'est « si j'avais ça, je serais heureux. » C'est toute petite chose, quelle qu'elle soit. Me manque, l'absence de ça, et donc le scénario c'est « si j'avais ». Et lui, c'est évident qu'il est venu avec la phrase « si j'étais là-bas, je serais heureux, puisque je ne le suis pas, je ne peux pas être heureux. » Et c'est exactement ça, le scénario, l'histoire que je me raconte. Et c'est important de vraiment se relier, non pas uniquement à la sensation de l'émotion elle-même, si vous voulez, mais vérifier si la croyance est présente et si elle est vraie. La croyance est née dans la pensée. Elle n'a aucun lien avec la réalité. Et je fais vraiment appel à votre souvenir ou mémoire par rapport à l'enseignement de Charles entre le concept et la réalité. Donc à la prochaine rencontre, lorsque je l'ai revu, c'était un autre homme. Il avait complètement laissé tomber les Caraïbes. Et il avait appris quelque chose de tellement extraordinaire pour lui par rapport à cette croyance qui était si forte et qu'il a pu percevoir comme étant une simple pensée. C'est extraordinaire à ce moment-là, lorsqu'il est vécu, au niveau de l'expérience directe, goûtée. Et donc, il a appris quelque chose de cette histoire et il m'a dit, mais à ce moment-là, il y avait absence totale de désir, attachement d'être ailleurs et tout simplement un lien, une qualité de présence d'être, eh ben non, c'est pas là-bas, c'est ici. Et tout ce qui se présente à moi, c'est ok, je peux être avec. Donc c'est ça qui se passe pour chacun de nous. Il n'y a aucun doute qu'à un moment donné, le désir peut être perçu, reconnu et il passe. La présence, quelque part, l'a éclairé. Donc c'est un processus, ça ne s'est pas fait avec un bâton ni avec une baguette magique, mais la présence a éclairé ce qui se situait, se tramait au niveau de la croyance. Donc lorsque le désir attachement est présent, le corps a tendance à se rigidifier. Il y a vraiment une tension parce que cette tendance à désirer, à vouloir ce qui n'est pas là, contracte. Et ceci se situe autant pour les expériences dites du domaine des sens, si vous voulez, que pour les expériences méditatives, encore plus subtiles. Lorsqu'on a été méditant à d'autres retraites et que ce n'est pas notre première rencontre, il n'y a aucun doute que ce désir-attachement peut également se situer là, dans un registre tout à fait glorieux de méditation. Il n'empêche que très souvent... Ceci est du désir-attachement qui est naturellement du domaine de la souffrance. Lorsqu'on veut recréer, lorsqu'on veut retrouver un état de méditation, dite expérience méditative qui n'est plus, vérifiez. Vérifiez s'il n'y a pas du désir-attachement lorsque vous êtes en train de batailler avec votre expérience présente. Donc voilà la manière de pouvoir vraiment découvrir ce désir-attachement qui naturellement se situe au niveau de la deuxième vérité dont a parlé Charles, qui est ce type d'avidité de soutenir constamment. Convoitise ou ce désir attachement très profond qui naturellement crée beaucoup de souffrance. Le deuxième, donc, qui fait partie de l'aversion, la tonalité générale ici est généralement beaucoup moins plaisant que ce que je viens de dire, c'est la négativité. Cet espace dans lequel on peut être extrêmement noir, négatif, et il y a beaucoup d'expressions, bien sûr, mais c'est vraiment un pendant de la première dont je viens de parler. Vouloir quelque chose, ne pas vouloir. Et ceci, au niveau des émotions, s'exprime comme simple irritation, frustration, colère, tristesse, blâme, ressentiment, rancœur et bien d'autres. Le Bouddha aurait dit de ce type d'émotion, un état qui ne pourra jamais nous apporter de la satisfaction. Jamais. Donc une des formes dont j'aimerais parler, une forme que je connais assez bien, c'est la tristesse. Et elle peut être présente lorsqu'il y a une perte. Il n'y a aucun doute que la tristesse peut émerger dans ces cas-là. Il se peut qu'il y ait une composition, si vous voulez, de déception par rapport à une expérience passée, du grief ou une vraie perte. Et naturellement, ceci peut également aller dans le sens du désespoir. Et il se peut également, pour ma part, j'ai pu voir que la tristesse est nourrie par l'inquiétude. Maintenant, chacune aura une composition légèrement différente et je crois que c'est important de pouvoir découvrir la sienne. S'il y a un certain intérêt, une curiosité, la présence va révéler ce qui se passe véritablement au niveau de la composition. Au niveau de l'attitude, c'est toujours un petit peu la même chose. Donc le scénario ici est, si je m'ouvre à cette tristesse, quelque part, en tout cas pour ma part, mon scénario c'est, si je m'ouvre à cette tristesse, je vais me perdre dedans. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je reste à distance. Et c'est exactement là que je maintiens peut-être une stratégie d'évitement qu'il est important de reconnaître, comme je l'ai dit précédemment. Donc, uniquement en prenant comme point d'appui, si vous voulez, cette qualité de présence, d'attention non jugeante, ça nous aide. Ça nous aide à prendre en compte le fait de vouloir être à distance. C'est là que ça commence. C'est pas vouloir être présent à la tristesse, c'est non, je prends compte déjà du fait que, j'ai envie de l'éviter et d'être vraiment consciente de cet aspect-là. Et puis, petit à petit, ça nous mène à sentir l'émotion elle-même. Donc, on comprend qu'à chaque fois, il y a un processus. Et c'est vraiment le processus qui est intéressant. Non pas remplacer une émotion par une autre. Maintenant, je vais parler de la colère. On est assis souvent avec des vieilles histoires, des personnes qui nous ont fait du mal. Il me semble important d'apprendre à méditer avec cette émotion, car on voit qu'elle a vraiment beaucoup d'emprise et qu'elle est assez présente dans ce monde d'aujourd'hui. Et que naturellement, elle peut émerger de manière très agressive. Donc on ressent là des sensations physiques qui sont accompagnantes. Il y a un sentiment de crispation, souvent dans les mains, dans les mâchoires. Et tout le corps peut se raidir. Et il y a vraiment là toute une exploration qui peut se faire au niveau du ressenti physique. Et au niveau des pensées, et il est important à nous de se rendre compte du scénario. L'esprit, généralement, brûle dans cet état. Il n'y a aucun doute que si on est perdu dans les pensées, on alimente très facilement ce feu lié à la colère. Plus il y a du ressentiment, plus on a mal, plus on ajoute du bois et plus le feu grandit. Et donc, l'esprit peut devenir vraiment très très brûlant. Maintenant, on peut également se perdre, et c'est là que j'ai pu percevoir pour moi-même souvent, c'est que on se perd et on l'augmente en la justifiant. J'ai bien raison d'être en colère. Et peut-être que oui. Et peut-être que oui. Il y a bien des raisons pour lesquelles on peut être en colère. En attendant, c'est nous qui brûlons. En attendant, la souffrance éprouvée est la nôtre. Il y a un exemple extrêmement parlant dans l'enseignement du Bouddha à ce sujet. Et juste pour résumer, il dit: avec l'intention de la jeter sur l'autre en ramassant un morceau de charbon ardent, on se brûle soi-même. Donc ce morceau de charbon ardent qu'on tient dans la main, c'est naturel qui nous brûle. Et tout l'enseignement va dans le sens que la haine ne peut faire cesser la haine, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa forme. Et ce qui m'a apparu tellement intéressant dans ce registre d'exploration en méditation, c'est que ce que j'ai vu, c'est pour moi-même, et c'est matière à réflexion, je ne prétends absolument pas donner des vérités, c'est vraiment des sujets à explorer pour vous-même, c'est parce que si je ne suis pas en train de condamner les agissements d'autrui, à ce moment-là, j'ai l'impression d'y consentir. Et je ne peux pas y consentir parce que les agissements d'autrui ne sont pas forcément les plus heureux. Donc, je me justifie en répliquant avec cette émotion, en la condamnant. Et le scénario est, dans ce cas-là, j'ai raison et il ou elle a tort. Et donc, il y a clairement une opposition. Et on se maintient à ce moment-là dans cette réaction. Et on peut rencontrer ces pensées qui justifient du fait qu'on a raison d'être en colère. Que si je ne suis pas en train de me perdre dedans, eh bien, il n'y a aucun doute que je ressens la douleur. La douleur qui, naturellement, est une énergie extrêmement pénible. La douleur de la colère est tellement douloureuse que lorsqu'on commence à être présent et qu'on peut la ressentir, eh bien, on sent le bienfait du lâcher-prise quand tout à coup, il y a c'est plus un charbon ardent, mais que ça passe, et puis qu'il y a à nouveau une composante d'un tout petit peu plus de calme. Donc, il y a à nouveau là tout un processus d'ardeur, de feu ardent qui va naturellement alimenter cette émotion douloureuse. Et si on arrive à se rendre compte de la pensée, eh bien, ceci va grandement nous aider pour ne pas ajouter du fuel. Et en même temps, on ne la juge pas et on ne la réprime pas. Donc, qu'est-ce qui reste ? La présence. C'est exactement là. Pour tout type d'émotion, il n'y a pas se perdre dedans et pas se maintenir à distance. Et pourtant, il y a une clarté par rapport à ce qui se passe. Comment ça se passe ? Eh bien, c'est la présence elle-même qui a cette extraordinaire capacité de pouvoir révéler ce qui est là, dans sa nature, sans qu'on se perde. L'autocritique est la suivante. Et d'après les maîtres orientaux, c'est l'épidémie du mal de l'Occident. Il n'y a pas d'autocritique apparemment en Asie. Peut-être que maintenant, ils prennent tellement de nos habitudes qu'ils ont aussi pris celle-ci, je ne sais pas. Mais c'est l'aversion tournée envers soi-même. C'est vraiment une manifestation de l'aversion qui est retournée envers soi-même. Et ça, c'est l'autocritique, c'est évident qu'il y a la présence du doute et qu'on a un ressenti, on n'est pas assez bon, on ne vaut rien. Donc là, extrêmement important de mettre l'accent et de percevoir la croyance à nouveau. Cette manière de ne pas s'aimer pour X raisons est vraiment douloureuse. Et j'ai déjà raconté cette histoire, mais je la raconte parce qu'elle est tellement parlante. Dans une conférence à Dharamsala où il y avait beaucoup d'enseignants occidentaux, ces enseignants occidentaux vraiment demandaient des conseils au Dalai Lama. Puis une des questions, ça a été, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces gens, ces occidentaux qui ressentent tellement d'autocritique et tellement de jugement par rapport à eux-mêmes? Et il a fallu vraiment expliquer très longuement ce qu'était l'autocritique. Il ne connaissait absolument pas cette émotion-là. Ne pas s'aimer, mais pour quelle raison? Ne pas se sentir adéquat, mais comment est-ce possible? Nous qui avons cette extraordinaire, précieuse vie humaine, comment est-ce qu'on peut manquer de valeur? Et encore plus, parce que forcément, ces enseignants occidentaux parlaient de leurs méditants, lorsqu'on est doté de pleines qualités et qu'on les met en application et qu'on pratique. Cela n'a aucun sens. Donc, puissiez-vous entendre les mots du Dalai Lama si c'est votre tendance. Et il a vraiment ajouté qu'il s'agit simplement d'une torsion de l'esprit, d'un aspect de l'esprit qui est un peu tordu. Et il a dit à ses enseignants, dites et enseignez le développement de la bienveillance, de metta et de la compassion pour rééquilibrer. Il s'agit simplement d'un déséquilibre auquel on peut remédier et on peut à ce moment-là retrouver le chemin de la confiance. Donc il y a vraiment cette dimension de pouvoir intégrer. En dernier lieu, la peur, qui pour moi naturellement est mon plus grand maître, c'est l'émotion qui m'accompagne depuis très longtemps, et j'ai tellement appris. C'est devenu un maître, la peur, une véritable source d'éveil, compagnon de route depuis si longtemps. Pendant longtemps, j'ai détesté la ressentir. Si on a un type d'émotion, généralement, on n'a vraiment pas envie d'être en présence de celle-ci. Et pendant très très longtemps, j'allais voir mes maîtres et puis je disais, mais il y a toujours cette peur. Et puis les maîtres disaient, mais vois si tu peux simplement rester en présence de la sensation physique. Et généralement, c'est ce qui est offert pour toutes ces émotions, de pouvoir rester dans le registre de l'émotion physique, c'est-à-dire de l'aspect physique de la sensation ou du ressenti, parce que c'est beaucoup plus palpable que d'essayer, généralement dans les pensées, on essaye de trouver une solution et d'éviter la situation. Donc là, il y avait le serrement dans la poitrine, la moiteur des mains, manque de solidité, un vacillement, même parfois des vertiges assez intenses, des tremblements. Et je lui disais, mais non, je ne supporte pas de ressentir les sensations physiques. Et c'était fascinant de pouvoir voir que ce n'était pas possible d'être en présence de ce ressenti physique. Et donc, que faire ? Faire, parce que quand c'est intense, comme ça, par moments, ça peut être extrêmement intense, ces émotions. Eh bien, s'ouvrir à la résistance. Il n'y a pas d'autre chose à faire que de dire, ben, oui, c'est comme ça. Non, je ne veux pas et je prends en compte la résistance. Le fait, non, je ne veux pas. Ceci est insupportable et c'est là que je vais commencer à pouvoir intégrer le travail de la présence. Nulle part ailleurs. Qui naturellement, par la suite, a pu révéler ou dévoiler la croyance, ce n'est pas possible. Parce que avec la peur, souvent comme avec d'autres types, l'idée de l'expérience est beaucoup plus difficile que l'expérience elle-même. Et donc c'est ça qu'on va découvrir. Et avec la peur, le scénario c'est le moment suivant va être insupportable. Quelque chose de désastreux va arriver. Donc il y a toujours un mouvement qui va dans l'anticipation et qui imagine le pire. C'est ça qui se passe. Et donc, naturellement, qu'est-ce qui se passe avec la peur? On est en fuite. Et très souvent, lorsqu'il y a de la colère, lorsqu'il y a de l'aversion, je pense que la peur est quelque chose qui est là, qui n'est pas très loin. La peur même de ne pas savoir ce qui va se passer le moment d'après. C'est bien pour ça qu'on saisit l'expérience présente. Il n'y a a aucun doute. On est là à s'accrocher, à contrôler, à vouloir manipuler notre méditation. Parce que peut-être qu'il y a de la peur, la peur de la peur. Donc c'est fascinant de pouvoir percevoir ces différents mouvements. Et la tonalité de l'esprit à ce moment-là est vouloir fuir. Et c'est vraiment difficile d'avoir la qualité de présence et conscience lorsque le mouvement va dans le sens de la fuite. Ça demande beaucoup de courage. Alors, pendant vraiment longtemps, c'était reste, reste. Ce moment-ci est supportable. Reste. Et puis, prendre appui au niveau du point d'ancrage. C'est essentiel par rapport à toutes ces émotions qui sont difficiles, douloureuses à vivre, de revenir autant de fois que nécessaire. Et je souligne, s'il y a une chose qu'il faut intégrer dans cet enseignement ce soir, c'est de revenir au point d'ancrage. Autant de fois qu'il est nécessaire pour se rééquilibrer, se ressourcer, se réalimenter, trouver un espace de tranquillité. Comprenez bien que c'est une exploration extrêmement vaste et on n'est pas là présent pour se débarrasser de quoi que ce soit. C'est qu'est-ce qui va m'accompagner pour pouvoir aller dans le sens de la réceptivité. Donc le respect de ces résistances passe par le fait de se ressourcer, se recentrer dans le point d'ancrage, quel qu'il soit. Et c'est pour ça qu'on choisit un point d'ancrage qui est stable et qui est neutre, qui ne présente pas, lui, de difficultés particulières. Et si vous avez besoin de parler de ceci avec l'enseignant qui va vous accompagner la prochaine fois que vous le voyez, eh bien, posez des questions à ce niveau-là, si ce n'est pas clair pour vous. Donc, on apprend à se respecter et à respecter ses résistances. C'est en les respectant qu'on peut intégrer l'attitude difficile. Intégration de la résistance, c'est le premier chemin. Faire connaissance avec celle-ci, si je dis c'est ok, c'est acceptable. Non, c'est pas acceptable. Non, je veux pas ressentir ceci. Eh bien, ça, c'est la vérité du moment. C'est exactement ça qu'il s'agit d'intégrer. C'est ok que ce soit pas. Je suis pas en train d'essayer de me dire, ah, mais il faut absolument que j'accepte. Et ça, c'est vraiment un chemin en vérité. Et il y aura plus de présence, plus de confiance. Et à ce moment-là, l'emprise de l'émotion sera beaucoup plus légère. Parce qu'on n'est pas en train d'essayer ou de vouloir éprouver quelque chose qui n'est pas là. Donc, c'est plus simple à dire et plus simple pour moi de l'exprimer que de l'éprouver pour vous. Mais il n'y a aucun doute que si je peux en parler comme ça, c'est qu'il y a eu un cheminement et puis c'est un processus de découverte. Et je pense que ce qui nous nourrit, c'est l'intérêt, la curiosité d'être un tout petit peu intéressé à découvrir, tiens, quel est l'espace de liberté que je peux découvrir en présence de ces aspects douloureux. Dans le Satipatthana, donc le texte de méditation hein, qui nous intéresse, nous, dans notre, si vous voulez, tradition méditative, c'est « Le pratiquant contemple l'esprit et voit s'il est affecté par le désir. Il reconnaît l'esprit est affecté par le désir. Il reconnaît l'esprit est affecté par le doute. Il reconnaît l'esprit est affecté par la joie. Il reconnaît l'esprit est affecté par la colère, par la peur. Il reconnaît l'esprit qui n'est pas affecté par la peur, par le doute, par la joie. » Voilà. C'est ça, cette qualité de présence. Il n'y a rien de plus. Pour en arriver là, c'est un processus. Il n'y a aucun doute que la méthode est aussi simple, tant mieux. Et parfois, elle l'est. Je dis aucun doute. Comme j'ai dit, comme des nuages dans le ciel. Elles apparaissent, elles disparaissent. rien n'est permanent. Et de percevoir que tout à coup, ah, on a été complètement pris dans une émotion hier, avant-hier, et puis tout à coup, ben, ça a changé. Bien sûr que ça a changé, ça change tout le temps. Il y a un changement perpétuel à nos expériences. Et de prendre ceci en compte, ça nous permet d'avoir aussi une très très bonne position et un positionnement par rapport à ce qui se passe. De vraiment se rendre compte aussi du comportement qu'on a une fois que la tornade est passée, que le volcan est passé. Donc deux choses, et je vais finir là, deux choses changent notre rapport au comportement habituel. Un, c'est le changement dans l'attitude. C'est vraiment important de comprendre que dans un premier temps, on va vouloir s'en débarrasser et de prendre conscience de ceci. Il n'y a aucun doute. Qui ne veut pas se débarrasser des émotions difficiles et de prendre conscience de ça, d'accord ? Je ne suis pas venue pour ça, je suis venue pour être calme, en paix, tranquille, avoir des moments de super méditation. Et voilà que cette expérience m'arrive et je n'ai pas envie de la rencontrer. Donc, être conscient de notre attitude. Progressivement, s'y ouvrir et les percevoir pour ce qu'elles sont. C'est un petit peu comme lorsque l'eau est froide. Lorsqu'on entre dans l'eau froide, on met un petit coup de pied, puis on sort. Puis après, on recommence un petit peu. Il y a tout un processus jusqu'à ce qu'on mette la cheville et puis peut-être le mollet et autres. C'est pas vrai ? Certainement que c'est vrai. Donc là, c'est la même chose. Un tout petit peu, puis on revient. Ce retour au point d'ancrage ou à une ouverture plus globale du corps, et même par moments, ça peut être intégrer les sons, peut être tout à fait judicieux. Un champ d'exploration plus vaste, plus grand, pour pouvoir intégrer, plutôt que de rester confiné et complètement perdu, nez à nez, avec ce ressenti douloureux. C'est là qu'on saisit et qu'on se perd. Deuxième changement au niveau de notre rapport, c'est plutôt, qu'est-ce que je peux apprendre de ceci ? Qu'est-ce que ça me révèle ? C'est la nature de l'émotion qui s'exprime et ses caractéristiques sont ce qu'elles sont, pour chacun de nous. Les caractéristiques sont universelles. Lorsque moi je parle de la colère, vous savez de quoi je parle. Donc, mon ressenti, votre ressenti, il n'y a rien de particulier, il n'y a rien de personnel à cette expérience-là. Et donc, on apprend lorsqu'on commence à voir que la nature elle-même de cette émotion est ce qu'elle est. Et ensuite, bien sûr, ce qui est particulier, c'est le scénario, l'histoire que je me raconte. D'accord ? Il n'y a aucun doute que le récit que je rajoute à son sujet, eh bien, m'est particulier. Et à ce moment-là, d'ouvrir vraiment l'espace de la présence au récit que je me raconte. Donc, il y a une appréciation grandissante, quelque part, pour la richesse de l'expérience elle-même. Et on a, à ce moment-là, l'opportunité de pouvoir découvrir et de révéler quelque chose qui nous permet d'aller dans le sens de plus grande liberté. Et il y a des moments où cette liberté, eh bien, elle est tout à fait manifeste. Amener une telle attention à ces processus difficiles et douloureux par moments est un acte de compassion en soi-même. C'est par compassion qu'on va aller se frotter un tout petit peu, par moments, beaucoup, si elles sont là de manière persistante et prolongée. Compassion voulant vraiment dire qu'on est en présence avec une certaine qualité, avec légèreté, avec un cœur qui est ouvert dans la mesure du possible, et ceci s'apprend également. Qu'est-ce qui va me laisser émerger ? Qu'est-ce qui nourrit la compassion ? Eh bien, la compassion va émerger lorsque la présence grandit. Voilà, donc, au niveau du processus, découvrir ce qui est là, revenir au point d'ancrage le plus souvent possible, si c'est nécessaire, pour maintenir un certain équilibre. Ouvrir ce champ d'attention pour inclure une zone plus grande du corps autour de l'émotion elle-même, être lié au ressenti physique. Et on peut élargir cet espace, se rendre compte qu'il n'y a pas besoin de se perdre et puis d'être uniquement dans un registre tout petit qui est micro. On a la tendance, même avec les sensations physiques, s'il n'y a pas d'émotion, la tendance est de rester très figé et confiné. Donc, ouvrez le champ de l'attention. Et par moment, pour terminer, ça peut être tout à fait judicieux d'aller se ressourcer à la nature, en présence des émotions douloureuses. La nature, et ces jours-ci, je dois dire, j'arrive d'une semaine de brouillard épais à Genève, et c'est extraordinaire quand on peut apprécier le fait de dire « Ah, mais c'est pas possible, le soleil, la chaleur, enfin, apparemment vous avez été extrêmement favorisé. » Et je crois que c'est important de s'en rendre compte et on s'alimente. On va vraiment découvrir si l'esprit est sombre et puis qu'il est complètement empêtré dans les difficultés, de prendre une bonne tasse de thé à un moment donné et puis d'avoir un moment d'appréciation, de prendre le temps, de faire une pause. Cette pause ne veut pas dire « Oh là là, j'ai tout perdu ». Ça fait partie du registre et d'intégrer. Et en méditant, lorsqu'on a un petit peu plus d'habitude, on intègre cet aspect-là comme étant moyen habile. Complètement partie du processus. Et non pas comme quelque chose que je m'interdis tout d'abord, ou si je me suis autorisée, je vais m'interdire par la suite et je vais commencer à me critiquer. Ce qui est encore une autre forme de préjudice et de douleur pour soi. Donc, trouvez les choses qui vous ressourcent dans la nature. Maintenant, il ne s'agit pas d'une lecture. Les lectures ne vont pas donner cette alimentation qu'apporte la nature. Il n'y a pas de doute que par moment, ça peut être judicieux. Mais là, on reste vraiment proche du ressenti, du vécu de l'expérience. Et donc, de passer à un niveau conceptuel, qui est forcément l'alimentation intellectuelle et de stimuler la réflexion, et puis c'est ce que fait la lecture. Il y a plein de moments où c'est possible, en dehors d'une retraite de méditation. Mais là, il n'y a aucun doute que ça peut justement nourrir à ce moment-là l'évitement. Par moment, s'il y a besoin d'une lecture, l'enseignant dira « ben oui, effectivement, c'est possible d'ouvrir également le champ de notre retraite et intégrer de la lecture. » Mais dans un premier temps, peut-être pas. Donc avec toutes ces émotions difficiles, on se rend compte que ce qui est le plus important, c'est l'attitude, la relation qu'on établit avec celle-ci. C'est vraiment là que se situe l'enjeu. La méditation, elle se situe nulle part ailleurs. Ce n'est pas une question de les avoir ou pas de les avoir. Maintenant, dans les moments les plus héroïques, elles sont vues comme des défis à relever. Et on y fait face courageusement. Dans nos moments les plus tendres, si vous voulez. Et ces deux aspects sont vraiment là, généralement. L'héros qui est en nous et qui a beaucoup de force, et puis aussi la tendresse. Eh bien, ces émotions sont vues comme des cadeaux qu'on peut recevoir gracieusement et pour lesquels on a de la reconnaissance, parce qu'ils sont également source de compréhension et nous mènent à la liberté. Une beaucoup plus grande liberté que d'être pris lorsqu'on les saisit.